Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Les vraies voix sur Sud Radio, on débat, on analyse, on décortique l'actualité. C'est un anniversaire aujourd'hui, puisqu'il y a 42 ans, nous quittait Jacques Brel. Et à mes côtés ce soir, les vraies voix ont tous quelque chose en lien avec le grand Jacques. Comme c'est un vieux loup de mer, cette chanson va parfaitement bien à Philippe Bilger.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves.
Oh, Philippe Bilger chantait, on entend. Vous avez un bel organe.
Vous n'êtes pas fatigué de cette blague.
Pas du tout, parce que j'adore vous entendre chanter alors que vous n'osez pas.
Ça m'arrive. Non,
tant de confidence dans cette émission, quand même d'indiscrétion, si je peux me permettre.
Comme on est toujours content qu'elle revienne.
Merci
cette
beaucoup.
Chanson aurait été parfaite si elle ne s'était appelée Caroline, mais le grand Jacques a choisi un autre prénom.
Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde.
Enfin, comme il est de gauche, cette chanson doit le ravir à merveille, Pablo Pio Vivien.
On leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, mais ça devient mieux.
Et des vraies voix qui, contrairement à Jeff, ne sont pas toutes seules, avec Jean-Marie Bordé aux réseaux sociaux, Jamel à la réalisation et Léa au standard. Tiens, Philippe Bilger, quand vous étiez étudiant en droit, est-ce que vous montriez votre et vos bonnes manières comme
non.
Jacques Brel dans la chanson?
Non, pas du
c'était
tout,
pas votre
mais
genre.
Moi, je n'étais pas de gauche.
Oui, mais vous montriez pas, non.
Non, parce que j'ai toujours une sorte de pudeur. En revanche, je suis très exhibitionniste sur le plan intellectuel.
Ah,
en
j'avais
revanche,
peur.
En revanche, et puis j'ai le sens du ridicule, je serais prêt à montrer de la beauté si je l'avais, mais je l'ai pas.
Mais vous l'avez.
Non,
vous
arrêtez
de dire n'importe des
quoi.
Voix.
N'oubliez pas que vous êtes un animateur qui doit être lucide.
De 17h à 17h30, on va prendre la direction de Toulouse. On va retrouver Christine Bouillot qui va nous raconter la visite de Jean Castex, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Jean-Michel Blanquer dans la Ville Rose où de nombreuses annonces ont été faites sur la sécurité. Et à partir de 17h15, Philippe Lavenu, secrétaire régional Occitanie d'Alliance Police Nationale, sera lui aussi en notre compagnie. À 17h30, notre premier débat sera consacré à la libération de l'humanitaire Sophie Pétronin contre la libération de 100 à 200 djihadistes. Fallait-il relâcher des djihadistes pour la libération de Sophie Pétronin? À 17h45, notre second débat, les syndicats vont-ils trop loin? Oui, suite aux échauffourées lors du conseil municipal de Saint-Denis entre représentants des syndicats et élus au cours duquel des élus ont été frappés. Enfin, à 18h30, notre grand débat, faut-il rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, l'impôt sur la fortune? Oui, les conclusions du deuxième rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité publié hier a montré que la suppression de l'ISF et l'instauration de la flat tax ont eu pour effet de faire fortement augmenter les revenus des 0,1% de Français les plus aisés. Vous voulez réagir, ça se passe comme toujours au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.
Et maintenant, cap au Sud, où sont présents... Toulouse, vous avez entendu Claude Nougaro. Toulouse, où sont présents 4 ministres et pas des moindres, avec la présence dans la Cité des Violettes de Jean Castex, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Jean-Michel Blanquer pour parler surtout sécurité. Nous sommes en compagnie de Christine Bouillot, notre correspondante en Occitanie. Christine Bouillot, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir.
Bonsoir Christine. Et
Philippe Bilger n'a pas voulu chanter, mais vous avez une très belle voix, je suis sûr que vous pourriez chanter du Nougaro.
Ah ben bah oui, chanter sous ma douche.
Ah bon, mais pas au micro.
Non, je ne ferai pas pas une offense à Claude Nougaro, c'est pas possible.
On demandera à Yvan Cujus de vous inviter dans le loft.
Oui, absolument, on fera un essai avec lui.
Alors comment s'est passée cette visite, Christine?
Oh bah, c'est une visite ministérielle, tout ce qu'il y a de plus classique hein, dans la communication de tout déplacement qui se veut avant tout un effet d'annonce. Alors des annonces importantes quand même, faut le souligner, hein, puisque Jean Castex et puis ses 3 autres ministres sont venus annoncer notamment des renforts de sécurité. Ça permet à tout le monde d'afficher... eh bien, ce message de fermeté vis-à-vis de la délinquance, vis-à-vis de ce sentiment réel. Donc, c'est véritablement aujourd'hui une préoccupation des Toulousains. Eh bien, enfin, des renforts de policiers, c'est ça la principale annonce aujourd'hui. Hein. C'est donc ces postes, cette centaine de postes de policiers qui vont être déployés sur Toulouse et une quinzaine qui seront déployés également dans le quartier des Isards où s'est rendu Jean Castex avec le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Alors, évidemment, les Isards aujourd'hui, c'est devenu le symbole de cette flambée de violence, hein, parce que je rappelle le contexte, à l'issue du confinement, il y a eu un vaste coup de filet des forces de police, hein, de la justice, pour mettre la main sur un des plus gros trafiquants de stupéfiants. Et depuis, on assiste à une reprise de contrôle de ces points de deal. Un point de deal leur peut rapporter jusqu'à 20-25 000 euros par jour, donc on comprend les enjeux économiques. Et donc, on se livre aujourd'hui à une guerre de territoire entre trafiquants, des trafiquants qui sont recrutés maintenant dans les villes extérieures, hein, puisque la reprise de contrôle ne se fait pas d'une cité à une autre, d'une rue à une autre. Ce sont vraiment des gros caïds qui interviennent et qui agissent, qui peuvent agir de l'étranger ou qui peuvent agir d'autres villes. On sait par exemple qu'il y a plusieurs personnes qui ont été interpellées et qui venaient de la région parisienne. Donc on voit très bien pourquoi aujourd'hui le sentiment d'insécurité augmente à Toulouse. Et donc Jean Castex, qui a une volonté, là c'est de la politique pure, hein, avec Emmanuel Macron, d'afficher et de consolider son aile droite sécuritaire avec les déclarations de Gérald Darmanin, avec les dernières déclarations de Éric Dupond-Moretti, et de dire voilà, on va déployer des moyens supplémentaires dans Toulouse, on va mettre des moyens supplémentaires pour la justice aussi avec cette volonté d'ouverture des postes. Et donc c'est véritablement, on va dire, une action un peu musclée qui a été montrée. On n'a parlé que de ça, ou quasiment que de ça aujourd'hui, enfin ce matin, puisque ça s'est déroulé ce matin. C'était vraiment un seul et unique thème de ce déplacement de quatre ministres, dont le Premier ministre. Donc ça veut dire véritablement qu'on voulait marquer comme ça. Et ça permet aussi, certains disent, dans l'opposition notamment sur la ville de Toulouse, c'est une, on va dire, un renvoi d'ascenseur aussi auprès de Jean-Luc Moudenc, qui a été un des rares maires Les Républicains à être réélu avec le soutien affiché de La République En Marche, oui. Dernière municipale. Donc c'est véritablement aussi un joli coup politique pour le maire en place, qui peut afficher comme ça une promesse de campagne en disant je vous avais promis des postes supplémentaires et que j'allais les négocier. Et il peut afficher effectivement un bilan après seulement 4 mois, 100 jours avec son nouveau mandat, et bien cette annonce autour des policiers. Voilà.
Philippe Bidière. Christine, je ne sais pas si cette visite collective aura des effets, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu une nouvelle méthode? Il y avait déjà eu ça à Nice, d'arriver à plusieurs comme ça. Est-ce que ça fait de l'effet? Est-ce que c'est heureux sur le plan quantitatif? Est-ce que ça va déboucher sur du qualitatif? Est-ce que ça ne donne pas l'impression, je dirais, d'une sorte de façade pour faire nombre? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors effectivement, vous avez raison, Philippe, c'est que depuis plusieurs semaines et depuis, la remontée de ce sujet-là dans l'actualité politique, on a vu Gérald Darmanin, en tous les cas, ou en tout cas Jean Castex et d'autres ministres, dont le ministre de l'Intérieur, se déplacer en province pour annoncer des moyens de forces de sécurité supplémentaires, des moyens supplémentaires aussi pour les polices municipales, une meilleure coopération. Enfin, ce thème-là devient récurrent. Alors la question est-ce que ces visites ministérielles vont changer quelque chose, vont dire... C'est toujours difficile de savoir exactement. Ce sont des projets... Les policiers ne vont pas arriver demain, déjà. Hein, c'est jusqu'en 2021. Donc, il faut le temps du recrutement, le temps de les installer. L'urgence, c'est effectivement le quartier des Isards, qui, pour la petite histoire où je suis passée hier, notamment, on a bien fait en sorte de bien sécuriser le quartier. Donc, pas sûr que Jean Castex, Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti, encore moins le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, ait vraiment vu ce qu'est le quotidien des habitants des Isards aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est de l'affichage. Ça permet quand même de dire qu'on y est allé, qu'on a occupé le terrain, que la République n'abandonne personne et aucun territoire. Donc ça, je pense qu'effectivement, en termes de symbolique, ça marque. Il y a des habitants hier qui me disaient qu'ils les attendaient. Donc effectivement, pour certains habitants, c'est un symbole fort que la République République puisse venir comme ça en nombre, en force, même si sur l'instant ça fait beaucoup de, on va dire, d'agitation médiatique, que le lendemain, eh bien, la vie continue et il ne se passe pas forcément tout de suite grand chose, mais les radars sont mis et c'est fléché en direction d'un quartier. On sait que ça peut être que ça, c'est cette présence des forces de sécurité, qu'elles soient municipales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient de gendarmerie, c'est un moyen, on va dire, de faire tomber la pression, mais c'est pas le seul. Hein, il y a tout l'écueil social, il y a l'écueil éducatif, donc tous ces questions-là, c'est un travail au long cours, et je suis pas, on va dire, convaincue que les effets soient immédiats, en tous les cas, qui permettent d'inverser la tendance à une échéance assez proche, mais lointaine en même temps, c'est celle de l'élection présidentielle. Donc il y a entre l'action, entre l'affichage, les annonces, l'action et les résultats, il y a souvent plusieurs mois, voire plusieurs années qui peuvent s'écouler. On parle d'être humain, donc c'est compliqué de dire il suffit que, il faudrait que, et on va faire. Voilà,
c'est pas aussi rapide. Comme on dit.
Le yaka faucon.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 17h14, les vraies voix. En direct de Toulouse jusqu'à 17h30 en compagnie de Christine Bouillot, notre correspondante en Occitanie. Et dans quelques instants, Philippe Lavenu, secrétaire régional d'Alliance Police Nationale pour l'Occitanie, sera en notre compagnie. Restez bien avec nous, c'est Les Vraies Voix, c'est Sud Radio.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pio Vivien. On retourne à Toulouse. On est en compagnie de Christine Bouillot, notre correspondante en Occitanie, et désormais de Philippe Lavenu, secrétaire régional Occitanie du syndicat Alliance Police Nationale. Philippe Lavenu, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors, comment s'est passée la rencontre entre les ministres et les policiers ?
Écoutez, nous, je vais commencer par les points de satisfaction. Cette visite ministérielle, ça a eu le mérite de faire repeindre quelques bureaux, quelques couloirs, d'avoir du mobilier neuf et de faire nettoyer à grande eau et à grande mousse toute la direction départementale de la sécurité publique. Donc nous sommes ravis qu'ils soient venus, au moins ça s'est fait. Par contre, un petit conseil, s'ils pouvaient venir séparément, ça nous permettrait d'avoir 4 nettoyages différents plutôt qu'un seul en une seule fois. Mais bon, voilà. Ceci étant dit, on a trouvé déjà un ministre de l'Intérieur à l'écoute. Hein, on a pu lui remettre un cahier revendicatif, hein, et qui va dans les annonces, parce que là on a sorti les poids lourds du gouvernement, hein, mais les annonces sont quand même somme toute assez légères. Nous, on avait 3 axes. Les effectifs qui ont été abordés, hein, par le Premier ministre et par le ministre de l'Intérieur. Et on demande pas moins de 150 effectifs. Alors, les 150, on les invente pas. Hein. C'est tout simplement la clé de répartition de la Direction centrale de la sécurité publique qui estime qu'il manque 150 effectifs à Toulouse. C'est pas nous qui le disons. Nous, on préférerait 200, bien évidemment. Puisque les effectifs, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour que nos collègues cadrent le terrain et puissent assurer leur mission en toute sécurité, la leur, et pour assurer celle des autres. Il manque 150 policiers, donc vous imaginez bien que les 111 annoncés, ça ne nous satisfait pas.
Avant de donner la parole aux Vraies Voix pour échanger avec vous et Christine Bouillot, vu l'émotion causée, est-ce que vous avez parlé de Herblay avec Gérald Darmanin et les autres ministres, évidemment ?
Non, on n'a pas parlé de Herblay, même si... Effectivement, nous sommes tous affectés par ce genre d'affaires. Et le problème, c'est que là, on est arrivé au paroxysme de la violence anti-policière, de la haine anti-flic. On est vraiment arrivé à quelque chose de catastrophique. Mais c'est quelque chose que nos collègues, dans une moindre mesure, bien sûr, vivent au quotidien. Ce sont les projectiles, ce sont les crachats, ce sont les insultes, ce sont les rébellions. On l'a vu tout au cours de l'été et partout sur la région Occitanie. Des refus d'obtempérer, des gens qui, avec leur véhicule, que ce soit des 2 roues ou des 4 roues, n'hésitent pas à foncer sur nos collègues délibérément pour attenter à leur vie. Là, on est arrivé à Herblay sur un phénomène de grand banditisme, j'imagine. C'est le paroxysme de la violence anti-flic. Mais ça fait partie, cette violence fait partie du quotidien du policier depuis maintenant des années, et ça s'accentue. Parce qu'on va arriver au deuxième point, une fois que j'ai parlé des effectifs, c'est la réponse pénale. Parce que c'est bien beau de nous annoncer qu'il va y avoir plus de magistrats à Toulouse, mais si plus de magistrats, c'est fait pour traiter les procédures plus rapidement, pour dire aux voyous plus rapidement qu'ils n'ont rien à craindre, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qu'on demande. Dans la réponse pénale, on veut que les voyous soient punis pour les faits qu'ils ont commis. Nous demandons une audience et nous allons l'obtenir. Hein. Il a dit qu'il allait nous recevoir, Monsieur Dupond-Moretti va nous recevoir. On demande un observatoire de la réponse pénale. C'est très simple, on veut que le citoyen sache que pour un acte délictuel, il encourt telle peine a été prononcée et telle peine a été effectuée. Et je pense que là, la phrase, ça sera plus mais que fait la police, ça sera plutôt mais que fait la justice.
Caroline Pilastre.
Oui, bonjour monsieur. Moi, j'adhère totalement à ce que vous venez de dire et à ce que vous avez expliqué concernant votre quotidien au gouvernement qui est venu en délégation. Je pense qu'ils sont venus, ne soyons pas naïfs, parce qu'il y a des élections en 2022, même s'ils ont envie...
Une adjure en 2021. Oui, les régionales.
Bref, mais surtout on pense à la présidentielle hein, et ils ont envie que les choses s'arrangent parce qu'il y a véritablement une exaspération de la part des citoyens en termes d'insécurité, de problèmes quotidiens vraiment liés aux agressions, à l'incivilité et aux régaliens en règle générale. Mais en dehors des propositions et de l'écoute et la compréhension de leur part vis-à-vis de votre corporation et de l'état psychologique des citoyens actuellement depuis le déconfinement. Est-ce qu'ils ont parlé de gros sous hein ? Est-ce que vous avez eu des chiffres concernant le budget ? Parce qu'on sait qu'il faut injecter beaucoup d'argent dans votre métier pour que les choses s'améliorent aussi, puisqu'on sait très bien que l'état des commissariats, souvent en décrépitude, sont un problème. Également, que vous avez un souci avec vos véhicules, qu'une fois sur deux, ils ne fonctionnent pas. Donc moi, j'aimerais savoir ce qu'ils vous ont dit au niveau gros sous hein, sur la question économique.
Philippe Lavenu et après Pablo Pio Vivien.
Alors, les annonces en matière de gros sous, pour reprendre votre expression, nous avaient déjà été faites, mais c'est toujours insuffisant. Donc, il y a le budget commun qui a été légèrement augmenté, mais qui ne suffit pas par rapport au retard qu'on a pris, et notamment dans les infrastructures immobilières, où vous avez pu le constater par vous-même. On a honte, nos policiers, non seulement d'y travailler, mais d'y recevoir les gens, parce qu'au-delà d'y recevoir des voyous, on y reçoit des victimes, on y reçoit des plaignants, des gens qui sont meurtris, qui ont été blessés dans leur chair, on les reçoit dans des conditions déplorables. Donc, un budget légèrement en hausse, mais qui est complètement insuffisant, pardon. Il y a le plan de relance. Alors, effectivement, dans le plan de relance, il y a des budgets supplémentaires qui vont nous permettre d'améliorer le quotidien, là. On a un budget qu'ils ont appelé poignée de porte. Bon, le budget poignée de porte, comme son nom l'indique, c'est pour mettre un coup de peinture quelque part.
Échanger les poignées de porte.
Mettre des joints dans les robinets qui fuient depuis 10 ans. Voilà, c'est pas suffisant. Il y a un plan de relance pour le parc automobile. On nous achète des Zoé. Zoé. Alors, j'ai rien contre les Zoé.
Quand elles ont plus d'électricité, c'est gênant pendant une course-poursuite.
Alors, bon, on a vu dans des grandes structures policières nationales qu'on pouvait avoir des coupures d'électricité à grande échelle. Donc, ça serait gênant, mais. Mais et en plus, je sais pas, les voyous ils roulent en BMW, en Mercedes avec des Audi qui ça dépasse l'entendement, la motorisation. Oui. Nous on nous donne des Zoé. Et alors on nous en donnerait une. On dirait bon, on fera des ports de pluie, on ira faire des convocations.
Mais là non, c'est compliqué.
On tape Zoé par commissariat.
Pablo Pio Vivien qui a pas eu la parole.
Ouais, non, moi je trouve ça.
Question rapide, réponse rapide, c'est
question
ça.
Question très rapide. En fait, je trouve ça très intéressant qu'on soit tous d'accord pour dire que c'est juste une opération de communication. Là, en fait, ils vous promettent 111 nouveaux postes, mais enfin on attend encore de les voir. Hein. Ils promettent ça d'ici 2021, j'attends de voir qu'en 2021 vous ayez 111 effectifs supplémentaires. Ça, c'était la première chose. Après, j'entends ce que vous dites sur les problèmes des sentiments, du sentiment que voilà, il y a une vraie part de la population qui est très agressive envers la police et qui sait plus trop. Moi, c'est ça que j'attendais. Et en fait, moi, j'ai écouté ce qu'a dit Castex, etc., et Darmanin tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi il ne s'adresse pas aussi en fait à la population. Pourquoi il ne s'adresse qu'aux policiers. Pourquoi Darmanin ne s'adresse qu'aux policiers ? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un grand discours en fait pour dire voilà à quoi sert la police dans la République française ?
Philippe Lavenu en une minute.
Il s'adresse aux policiers parce que c'est quand même notre patron et nous on a beaucoup d'attentes.
Alors, oui, mais il est aussi ministre des Français, de tous les Français.
Oui. Et là où je vous rejoins, c'est que il faut pas qu'on focalise non plus sur les Français. Ce qui serait sympa et ce qu'ils devraient demander, c'est que ceux qui soutiennent leur police, c'est-à-dire 90% des Français, on a un taux de satisfaction et d'encouragement de 87, je crois. Mais globalement, les gens nous aiment bien. Mais le problème, c'est que les gens qui nous aiment bien, comme sur les réseaux sociaux, ils s'expriment pas, les gens bien. Ceux qui s'expriment, c'est toujours ceux qui ont quelque chose contre à dire, c'est toujours ceux qui sont dans la critique, c'est toujours ceux qui sont dans l'opprobre ou qui sont prêts à nous montrer du doigt. Il y a rarement des manifestations, enfin, j'ai jamais vu des manifestations de soutien aux policiers. J'ai jamais vu.
S'il y en a eu, mais il n'y avait pas grand monde.
Mais, si tu me permets. Oui, il y avait puis essentiellement des policiers. Mais c'est ça qu'on attendait.
Merci beaucoup, Philippe Lavenu, secrétaire régional d'Alliance Police Nationale pour l'Occitanie. Merci beaucoup, Christine Bouillot. Dans quelques instants, notre premier débat sera consacré à la libération de l'humanitaire Sophie Pétronin. contre la libération de 100 à 200 djihadistes. Fallait-il relâcher des djihadistes pour la libération de Sophie Pétronin ? Vous pouvez réagir au 0826 300 300 et vous êtes 92% à dire non sur les réseaux sociaux. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pio Vivien. Notre premier débat est consacré à la libération de l'humanitaire Sophie Pétronin contre la libération de 100 à 200 djihadistes. Les chiffres varient selon qu'on regarde des sites français, maliens, etc. Une libération de djihadistes qualifiée de catastrophe pour le pays par Père de Jong, ancien aide de camp des présidents François Mitterrand et Jacques Chirac. Fallait-il relâcher des djihadistes pour la libération de Sophie Pétronin ? C'est notre premier débat et pour le moment, vous êtes 92% à dire non sur les réseaux sociaux. Et c'est l'instant du duel.
C'est l'heure du duel !
Et pour ce duel, nous avons Franck qui nous appelle de la région parisienne. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Quelle est votre position ?
Ma position, elle est sur le plan des principes. Vu de très haut, on peut se dire bah c'est bien, c'est d'un point de vue individuel, c'est humanitaire, on protège nos ressortissants, etc. Ça c'est bien, mais de notre côté, il faut regarder d'un point de vue stratégique. Je pense que c'est une catastrophe. Parce que, d'ailleurs, en plus, enfin, je suis un peu surpris, je sais pas si vous en avez parlé, mais cette femme, quand même, elle a tout de suite dit qu'elle comptait retourner là-bas.
Elle veut retourner à Gao, exactement.
Oui. Qu'elle s'était convertie à l'islam, qu'elle refusait qu'on appelle ces gens des djihadistes, c'est quand même, assez suspect.
C'est le syndrome de Stockholm.
Tout à fait. Hein.
Oui, tout à fait, ça c'est clair, c'est le syndrome de Stockholm, c'est voir plus que ça, puisque le syndrome de Stockholm, c'est finalement comprendre ses ravisseurs, mais elle va encore plus loin, elle s'est convertie à l'islam, ouais. Et c'est tout juste si elle va même pas retourner pour militer là-bas. Donc est-ce qu'on n'a pas... Non seulement, en plus, j'imagine qu'on a dû payer quelque chose, ça, je sais pas.
Alors, les États ne le reconnaissent jamais, mais dans 99% des cas, c'est le cas.
Oui, on n'a pas le savoir, ça. En termes de négociation, ça fait partie du secret défense, on n'a pas le savoir.
On a financé le djihad contre nous, contre nos soldats, nos petits jeunes qui meurent là-bas, en fait, quand même, hein, parce que on a envoyé des militaires qui sont des petits jeunes valeureux, qui eux se battent pour notre pays,
qui meurent parfois, sur le sol, perdent la vie
sol
là-bas.
Africain, exactement, qui meurent sur le sol africain pour
Franck,
on va faire
réagir Caroline Pilastre face à vous. Caroline, qu'est-ce que vous voulez répondre à Franck ?
Bonjour Franck. Alors moi, je me réjouis de la libération de cet otage parce que c'est une femme de 75 ans qui a vécu 5 ans en tant que détenue. Qu'elle soit convertie à l'islam, moi, ça n'est pas mon problème. On est allé sauver une femme française, Sophie en l'occurrence. Après, elle fait bien ce qu'elle veut. Moi, je me mets à la place de son fils, à la place de cette femme qui, en plus, est atteinte d'un cancer. Elle est restée 5 ans là-bas. Elle a créé un orphelinat. C'est une humanitaire, une bénévole qui a sorti des enfants des rues, hein, de la grande précarité. C'est tout ce que je constate. Et si c'était ma mère ou si c'était ma grand-mère, j'aurais été la première à me battre, hein, pour qu'on puisse la libérer. Après, j'entends parfaitement et je suis la première à être très inquiète, comme je suis une pro-régalienne, pour nos militaires en fonction au Mali, évidemment, que c'est très angoissant et effrayant pour eux. Mais là, on parle d'avoir libéré une femme qui a été otage. Maintenant, elle a peut-être envie d'y retourner parce qu'elle y a quand même vécu 20 ans, il faut le redire. Donc ça fait aussi partie de sa culture. Mais elle sera très contente de revenir sur le sol français. Et à travers elle, on a attaqué la France. Il faut le rappeler, la France ne laisse jamais tomber un ressortissant, contrairement à plein d'autres pays comme l'Angleterre.
On va faire réagir Pablo Pio Vivien aussi.
Moi, juste, en fait, il y a un truc qui m'emmerde profondément avec toutes ces libérations d'otages. C'est cette espèce d'orchestration ritualisée.
Mais c'est dans tous les pays.
Non, c'est pas dans tous les pays, pas du tout.
Parfois.
Mais pas autant que chez nous, où en fait, l'otage est reçu à Villa Coublet par le président de la République, avec toutes les caméras. Et en fait, ça renforce le sentiment d'ultra-personnalisation en fait, du sauvetage. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est Macron qui a sauvé cet otage. Or, précisément, il y a une foultitude en fait, de paramètres qui sont pris en considération. C'est même pas, a priori, c'est même pas l'État français en fait, qui a organisé la libération ni de cet otage, ni des ni des djihadistes de l'autre côté. C'est l'État malien, a priori, qui était aux manettes. Donc,
où il vient d'avoir un coup d'État militaire.
Exactement, mais on a tellement l'impression, en fait, que, comme Macron, en fait, se félicite, moi, j'ai entendu son je sais plus si c'était un verbatim ou si c'était un communiqué de presse, mais en gros, il s'auto-félicite d'avoir libéré cet otage. Mais c'est pas lui, en fait, c'est des dizaines d'agents des renseignements extérieurs et des renseignements extérieurs et intérieurs maliens qui organisent ça. Et donc, ils ont dû considérer à un moment qu'il était légitime. Et je pense pas qu'on ait les éléments, en fait, pour peser le pour et le contre de cette décision. C'est des éléments qui sont, comme vous l'avez dit, classés secret défense.
Et est-ce que la France avait un autre choix? En réalité, ces alternatives sont un peu équivoques, parce que je vois mal un pays arbitrer, comme on tente de le faire, entre la raison d'État, les djihadistes qu'on libère et qui vont créer le pire. Un État ne peut pas lâcher un ressortissant, quoi. Je vois pas comment on pourrait faire, objectivement.
Justement, Franck, est-ce qu'un État peut lâcher un ressortissant? Parce que
est-ce que je peux intervenir? Si
mais c'est, je vous donne la parole à l'instant.
Oui, mais c'est surtout en réponse à ce que disait madame.
Caroline Pilastre.
Je comprends bien ce qu'elle dit, mais si vous voulez, et c'est tout le problème, en fait, de l'Occident depuis 50 ans, on n'est pas là pour... On comprend le drame humain, mais c'est pas ça qui est important. On fait de la politique internationale, de la géopolitique, de la stratégie. Staline disait, en fait, un mort, c'est un drame, 100 000 morts, c'est des statistiques.
Ouais, c'est horrible,
mais on est obligé de s'abstraire de cette politique compassionnelle, parce que au final, pour sauver cette femme, peu importe qu'elle soit effectivement convertie à l'islam, etc., mais on va peut-être tuer combien de personnes,
beaucoup plus.
Soit nos militaires, ce soit même des Maliens sur place, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est déjà dit.
Que l'armée malienne se bat aussi. Place.
Voilà. Donc, si vous voulez, il faut avoir une vision un petit peu plus haute. Et si on reste simplement sur la personnalisation, les individus, on ne peut pas faire politique internationale. Il y a nécessairement, pour sauver des vies, il faut en sacrifier parfois.
Et là, eh bien, moi, je suis en désaccord avec vous, Franck, hein, parce qu'une vie, pour moi, n'a pas de prix. C'est pas une question de gros sous. Et quand j'ai entendu Marine Le Pen dernièrement dire qu'elle voulait connaître les dessous de la négociation, je trouve que c'est scandaleux et c'est vraiment de l'indécence de sa part. Et c'est pas digne d'une femme qui se présente à la présidence de la France. Parce qu'on n'a pas rentré, nous, dans ces considérations. Non, vous voulez savoir ce qu'il en est du secret défense?
Mais bien sûr.
Mais je trouve que c'est encore plus mais dangereux
Caroline,
de le savoir.
Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de demander aux citoyens de s'évacuer d'un débat qui le concerne? Moi, les raisons d'État, je les comprends bien, mais il est intéressant de savoir ce qu'on a mis dans l'autre plateau de la balance.
Mais c'est entre les agents secrets et les gouvernements, ça ne nous regarde pas directement. Et qu'est-ce qu'on va faire des djihadistes qui vont être bientôt libérés sur notre sol français et qui sont français?
Je voudrais vous poser une question à tous.
Qui méritait d'être libérée, et c'est la dernière otage française. Mais c'est pour ça aussi que M. Macron a été sur le tarmac.
Je voudrais vous poser une question à tous. Une question un peu provoque. Elle veut retourner à Gao. Imaginons, elle retourne à Gao. Elle est recapturée par des djihadistes.
Ah ben là, ça la regarde. Là, on l'a sauvée une seule fois. La seconde fois, c'est sans
problème.
Donc,
il n'y a pas de joker.
Mais la première fois, elle a été kidnappée, vous aviez dit tout à l'heure
qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait.
J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle a été kidnappée alors que c'était une humanitaire. Elle ne faisait pas de politique. D'ailleurs, elle a été bien traitée à cause de ça. Et qu'on l'a kidnappée parce qu'elle représentait la France qu'on a voulu attaquer. On savait très bien qu'on allait verser une rançon. Mais vous faites quoi? Vous laissez cette femme mourir d'un cancer avant de revenir dans son pays, de revoir son fils? Mais quand on a entendu le cri de joie de son fils, mais moi, je me suis mise à sa place.
Mais moi, j'ai une autre question,
Sophie Pétronin,
c'est pas la seule Française à Gao. Hein. Actuellement, il y a des humanitaires français à Gao. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où, si elle décide d'y retourner, il n'y a pas besoin d'elle. Si les djihadistes sur place ou les groupes islamistes veulent capturer un otage français, ils n'ont pas besoin de Sophie Pétronin spécifiquement pour la capturer. Ils peuvent capturer n'importe qui d'autre. Enfin, je veux dire, il y en a plein des humanitaires. La France en a à peu partout. Dans le monde, et c'est d'ailleurs fort heureux qu'on arrive en fait à aider par solidarité que notre savoir-faire réussisse à s'exporter dans ces pays-là.
Et on sait que la France, de toute manière, est vraiment cotée en termes de kidnapping. C'est terrible de le dire, mais évidemment,
gestion de kidnapping, on n'est pas trop mauvais. On a assez bons services.
Non, mais très bien. Mais on sait très bien que ces pays-là, de toute manière, vont plus vers les Français que d'autres pays, justement, parce qu'on va vouloir les récupérer et qu'il y aura une négociation.
Et que la France paye.
Ben oui, mais Caroline, Caroline, moi, je peux pas m'empêcher de penser à ces djihadistes qui vont acheter une multitude d'armes et qui vont créer un nombre infini de victimes.
Évidemment, mais ça sera de combattants à combattants, là. C'est terrible pour les militaires et je leur souhaite évidemment de ne pas avoir à le vivre. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, quand on est déterminé, quand on a envie d'attaquer, on attaque. Ça ne changera rien. Moi, je me félicite vraiment que cette femme soit revenue chez elle et qu'elle ne soit plus otage.
Pour ne plus qu'il y ait ce genre de choses qui se passent au Mali. Hein. Enfin, je veux dire, on en a aussi les moyens. Le dialogue entre les peuples, on y va, on discute. On n'est pas. Enfin, vous parlez de combattants. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce que dit en substance Sophie Petronin quand elle dit attention, il ne faut pas dire que c'est des djihadistes, etc. Ouais. C'est très compliqué ce que c'est. Là, j'ai discuté avec des gens de l'IRIS, l'Institut de Recherche
Internationale Stratégique.
Voilà, sur ce que c'était en fait qu'un djihadiste dans ces pays du Sahel et sous le Sahara. Et en gros, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'ils sont très intégrés dans la population. Très souvent, ils ouvrent des écoles, ils ouvrent des hôpitaux. Ce sont les seuls à pourvoir entre guillemets les services publics de base. Et donc, au bout d'un moment, on décide parce qu'effectivement, ils prennent les armes, enfin, ils débordent. Et franchement, et c'est catastrophique. Mais ils sont tellement intégrés dans les populations que dire ce sont des combattants, c'est juste dire ça, c'est un tout petit peu, à mon avis, c'est un peu trop lapidaire.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 17h41, le premier débat. Fallait-il relâcher des djihadistes pour libérer Sophie Petronin ? Eh bien, vous êtes 92% à dire non. Dans quelques instants, les syndicats vont-ils trop loin ? Ce sera notre second débat suite aux échauffourées et lors du conseil municipal de Saint-Denis hier entre représentants des syndicats et élus au cours duquel des élus ont été frappés. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pio Vivien. Et on commence par écouter un son mythique d'un ex-patron de la CGT.
180 000 centimes répartis à égalité.
1 118 000 centimes.
J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois.
118 000 francs.
1 180 000 centimes.
Non.
Ça a du bon l'euro. Hein.
J'aurais été capable de faire cette gaffe.
Oh ben on va surnommer Henri alors. Non, mais... La CGT était déjà fâchée avec les chiffres il y a quelques années. Et c'est toujours le cas aujourd'hui car suite à la volonté du nouveau maire PS de passer la durée du travail des employés municipaux de Saint-Denis de 32h30 à 35h et de cautionner les primes à l'absentéisme, des échauffourées ont eu lieu hier lors du conseil municipal. On écoute la réaction du maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, ce matin dans le Grand Matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus.
Ça a duré une bonne demi-heure où on a eu un envahissement du conseil municipal hier par une cinquantaine d'activistes, certains agents de la ville manifestement, d'autres des forces extérieures qui ont apporté leur concours à l'opération. Donc ça a été immédiatement, on casse les portes, on rentre. Et là, on est dans de l'intimidation, on est dans autre chose. Alors il y a eu les élus qui ont été agressés, auxquels je les ai invités, et ils vont porter plainte aujourd'hui. Il y a quand même eu un de mes élus qui a été pris en charge par les pompiers pendant une bonne demi-heure, qui s'est pris des coups sur la tête.
Vous avez entendu donc le maire Mathieu Hanotin ce matin dans le Grand Matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Vous êtes pour le moment 72% à dire que les syndicats vont trop loin. La parole est à la défense, Pablo Pio Vivien.
Oui, alors non, déjà, je tiens à dire que vous avez dit qu'il voulait passer de la semaine de 32h05.
C'est le maire.
Alors oui, mais en fait, c'est pas exactement ça. En fait, ils sont à 35 heures. Hein. Ils travaillent 35 heures par semaine. C'est juste qu'ils ont plus de vacances. Ils ont obtenu, de par le passé, plus de vacances.
Ce qui fait qu'ils travaillent 32h30.
Ce qui fait qu'ils travaillent 35 heures par semaine, mais ils ont plus de vacances. Ils ont plus de jours de congé. Non, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, ils travaillent pas 32 heures à la fin de leur semaine, ils ont 35 heures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que ce qui s'est passé hier est malheureux et c'est un euphémisme que de le dire, mais il faut aussi voir la violence en fait de ce que a représenté certaines des premières prises de position de cet élu de Mathieu Hanotin à Saint-Denis. Premièrement, il a augmenté son salaire de 1 400 euros, donc c'est toujours un peu bizarre de dire bon bah j'augmente mon salaire de 1 400 euros et en même temps bah je vais les faire travailler plus. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Le deuxième, c'est que il a pris un arrêté pour empêcher par exemple les chicha en extérieur, qui a beaucoup choqué en fait une partie de la population qui s'est sentie attaquée et stigmatisée en fait par cet arrêté. Donc il y a des conflits en fait en ce moment qui sont très très forts à Saint-Denis. Il faut aussi savoir que Saint-Denis est une ville communiste depuis, je sais pas, Mathusalem.
Depuis mille des années, 20,
que,
je crois.
Voilà, et que là, en 2020, elle devient socialiste. C'est la première fois. Les élus, il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de changer à Saint-Denis, à commencer par la sociologie d'une partie de Saint-Denis qui a voté en partie socialiste. Ça, il y a, comme on dit, il y a des, vous savez, ça, c'est comme une vis dans un écrou qui rentre pas très très bien. Enfin, je veux dire, il y a des frottements et c'est malheureux. Je sais pas s'il faut vraiment les. Si, il faut les condamner parce qu'il y a une femme, une élue qui s'est fait blesser, qui a été blessée, bien sûr, mercredi. Ça, bien sûr, il faut. On peut pas faire ça. Mais le conflit, encore une fois, il faut réussir en fait à apaiser le conflit, à faire rentrer tout le monde dans la ronde et les anciens élus compris.
Philippe Bilger.
J'ai conscience de tomber dans une sorte de monotonie réactionnaire quand. Non, mais quand je vais m'indigner parce que au-delà de Saint-Denis, c'est quelque chose qui représente un processus de délitement de la démocratie, même les institutions, les lieux en quelque sorte emblématiques représentant d'une certaine manière le peuple, ne sont absolument plus sanctifiés. On ose y pénétrer par la violence. Et là où je ne vous rejoins pas, Pablo, je trouve que, encore une fois, votre comparaison entre une violence indiscutable et une violence, je vois bien ce que vous voulez dire, parce que vous n'adhérez pas probablement à ce qu'a décidé le maire. Je trouve que la comparaison, de mon point de vue, n'est pas pertinente. On ne peut pas comparer une violence indiscutable, objective, et qui a en effet blessé, avec une violence qui relève peut-être d'une contradiction des points de vue.
Le problème, c'est que le pouvoir a toujours cette violence, soi-disant symbolique et, genre, et impalpable, de son côté, et que le peuple, qu'est-ce qu'il a ? Bah, il a, hélas, aujourd'hui, la violence physique. C'était la même chose avec les gilets jaunes,
oui,
finalement.
Mais rien Pablo, ne justifie l'appellerait des doigts de la violence physique et verbale.
Ah ben ça, c'est
Caroline
c'est
Pilastre.
Non, mais même si on est dans une violence sociale et sociétale, pardonne-moi, mais moi je ne cautionne absolument pas et j'espère que les personnes qui ont été très véhémentes, menaçantes, intimidantes et qui ont blessé un élu, mais vont se faire prendre, vont être jugées et vont même être licenciées. Mais complètement. Mais qu'est-ce que c'est que cette société où on ne réagit qu'en étant violent désormais ? Moi je suis indignée et révoltée par ce genre de comportement. On peut très bien se faire entendre, être en rébellion contre les uns ou les autres sans agir de la sorte. Mais nous sommes où là ? Est-ce que nous sommes des animaux ? Ce pays part à volo. Moi je suis désolée, mais je vous rejoins, quitte à être traité de réactionnaire, monsieur Bilger, et j'en ai strictement rien à faire, mais nous sommes dans un délitement sociétal. Bah écoutez, moi aussi dans ce cas de figure, parce que c'est une question d'éducation. On ne doit pas s'en prendre aux élus de la République comme à monsieur tout le monde, bah, de la sorte. Mais évidemment, mais un élu, ça représente aussi la République. Vous êtes en désaccord. Vous voulez vous faire entendre ? Ben tout à fait, le régalien, une fois de plus.
On va au 0826-300-300. Nous avons Alberto avec nous, ancien syndicaliste de la CGT. Bonsoir, Alberto.
Bonsoir.
Vous connaissez, je vous pose une question rapide. Vous connaissiez Henri Krasucki ?
Ah, mais je le connaissais très bien, oui.
Ah oui.
J'étais très jeune à l'époque.
Vous étiez avec lui quand il avait des problèmes de calcul, là ?
Non, non, pas du tout, mais non, j'étais jeune, j'étais mineur à l'époque, mais j'adorais,
D'accord.
C'est quelqu'un de simple, hein. Oui, j'aimais beaucoup, oui.
Alors,
oui.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier soir du côté de Saint-Denis ?
Du côté, je n'ai pas suivi trop l'histoire, mais bon...
Élus qui se font frapper, c'est quand même un peu gênant, non ?
Ah oui, un peu quand même, non, faut pas aller jusqu'à là quand même, ça va un peu trop loin quand même, hein.
Ça va un peu trop loin. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, certains syndicats, bah peut-être pour essayer d'attirer le plus d'adhérents possible, ne virent pas un peu au jusqu'au boutisme ? Allez, tiens, je vais citer des noms, je ne vais pas me faire que des amis. La CGT et Sud, par exemple.
Écoutez, la CGT va un peu loin, oui. Un peu trop violent. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Hein. Moi, j'ai connu la CGT, dialoguer quand même.
Et ça a un peu changé.
Et je trouve aussi que la CGT fait beaucoup trop de politique. Voilà.
Ça, c'est quand même... Merci beaucoup, Alberto, ancien syndicaliste CGT. Est-ce que ça, c'est pas quand même un reproche qu'on fait régulièrement aux syndicats français par rapport, par exemple, aux syndicats allemands qui sont beaucoup plus puissants comme IG Metall ? C'est que les syndicats français font peut-être un peu trop de politique et un peu pas assez de syndicalisme.
Non, et bien sûr, on a eu ce... Alors, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Nous, on a la séparation assez stricte, en fait, entre les partis et les syndicats. C'était le congrès de Reims, non, de je sais plus quel congrès, au début du XXe siècle, qui avait dit, bon, bah voilà, il y a les syndicats qui s'occupent...
C'était pas à Tours.
C'était à Tours, exactement.
C'était décembre 1920.
Exactement, 1920. Et donc, il y avait cette séparation, il y a cette séparation qui est très claire, etc. En Allemagne, il n'y a pas cette séparation. Hein. En Allemagne, les syndicats et les partis, c'est assez mélangé. Ils discutent, ils se retrouvent. Il y a des élus sur les listes, notamment par exemple du SPD, qui sont issus des syndicats. Ils ont des places plus ou moins réservées. Nous, en France, on a séparé les deux. Aujourd'hui, effectivement, c'est un peu en train d'être vu. On voit, par exemple, la CGT qui parle, qui signe des tribunes avec Greenpeace, avec des associations, etc. Il y a Philippe Martinez qui commence à aller parler à certains insoumis, à certains communistes. C'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau.
Verdict sur Twitter, oui. Verdict, pardon, le deuxième débat, donc Saint-Denis, les syndicats vont-ils trop loin? Vous êtes 71% à dire oui. Ça vous dirait, les vrais voix, de jouer un petit peu?
Allez.
Eh bien, c'est parti avec Jean-Marie Bordry, les rois de l'info.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Bonsoir Jean-Marie Bordry.
Bonsoir chers
Je
amis.
Je peux prendre un pari avec vous qui Allez-y. Pourrait me valoir une place dans l'émission de Trina McDean.
Allez-y.
C'est que l'auditrice ou l'auditeur va vouloir jouer avec Philippe Bilger.
Mais je vous propose...
Mais c'est le meilleur moyen de la dissuader.
Je vous propose qu'on demande à Rémi au 0826-300-300. Salut Rémi.
Bonsoir oui, Rémi. Salut, bonsoir.
Vous nous appelez d'où?
J'appelle de Bordeaux.
Vous êtes de Bordeaux. Bon, bah écoutez, je vais vous proposer du coup, mais vous ne laissez pas influencer, hein, vous êtes libre, de choisir une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres. Vous avez le choix entre Pablo Pio Vivien, Philippe Bidger et Caroline Pilastre.
Alors en fait, le choix, et c'est ce que vous aviez dit il y a deux secondes, c'était pas calculé, mais c'est Monsieur Bilger. Ouais.
On ne change pas une équipe qui perd.
Bilger.
Philippe Bilger. Trina, tu me réserves une place dans ton émission.
Allez, on commence.
Merci, c'est gentil de me faire confiance.
Je vais vous parler de trois actualités insolites que vous avez pu voir passer dans les réseaux sociaux. Je ne vous raconte pas toute l'histoire. Je vous donne trois fins alternatives. Une seule est vraie. On verra quelle équipe l'emporte. C'est vous, Rémi, qui répondez en premier. Et ensuite, nos vraies voix qui complètent si jamais vous vous êtes trompé. Et ça peut arriver. On commence. Je vous emmène aux États-Unis. Deux agents pénitentiaires d'une prison de l'Oklahoma sont inculpés pour des actes cruels et inhumains sur des détenus. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait subir? Réponse 1. Ils volaient toutes les lettres que les épouses envoyaient à leur mari détenu. Réponse 2. Ils volaient systématiquement la moitié du repas des détenus. Réponse 3, il faisait écouter en boucle aux détenus une comptine pour enfants. D'après vous, c'est quoi, Rémi?
La
3
La première réponse, je ne sais pas.
Vous savez pas, vous auriez dit la première, c'est pas la première.
Moi j'aurais dit la 3.
La 2.
Alors c'est la 3, c'est Caroline.
Bravo, bravo.
Écoutez ce qu'il leur faisait écouter. En boucle, avec un volume extrêmement fort pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Ils sont effectivement inculpés. Ah oui. Parce que c'est quand même particulièrement dégueulasse. Je crois qu'on peut se le permettre de le dire.
Comme la reine des neiges en boucle, quand tu deviens malade.
J'ai cette chanson dans la tête depuis tout à l'heure que j'ai prévue. Bon, on va continuer. Ça fait un point pour Caroline et Pablo. Allez, on continue. La persévérance qui finit par payer une Australienne qui remporte un jackpot de 437 000 euros après avoir toujours utilisé les mêmes numéros au loto. Comment elle les choisissait, ces numéros? Réponse 1. Il s'agissait de sa date de naissance ainsi que de celle de ses enfants et de son mari. Réponse 2, il s'agissait des numéros qui utilisait déjà sa défunte mère. Réponse 3, c'était tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. D'après vous, Rémi?
Réponse 3.
Non.
La 2?
La 1.
Voilà,
c'est la 2. C'est Caroline.
Caroline.
Elle a remporté le jackpot. C'était les mêmes numéros qu'utilisait sa mère défunte pendant toute sa vie. Bénie soit-elle, s'est exclamée l'Australienne. Ça fait 2 points pour l'équipe de Caroline et Pablo. Vous avez gagné, Caroline et Pablo.
Vous avez gagné, Caroline et Pablo.
Les rois de l'info,
c'est nous aujourd'hui. Vous avez gagné quelque chose.
Absolument. Restez en ligne. Donnez-nous votre adresse à Bordeaux, ou plutôt la donnez à Léa, qui est au standard de Sud Radio, et on vous enverra un mug Sud Radio.
Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup Rémi et bon week-end. Dans quelques instants, notre grand débat. Faut-il rétablir l'ISF? Oui, l'impôt sur la fortune. Vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix en ce 42e anniversaire de la disparition de Jacques Brel. Et Pascal et Philippe Bilger forment un couple si romantique que cette chanson leur va parfaitement.
Mon doux, mon tendre, mon merveilleux. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour.
Ça vous plaît, hein?
Mon corps,
ah,
c'est magnifique.
C'est une belle chanson de...
Parce qu'elle aime cette chanson.
Ah bah sûrement, sûrement.
Bon, on lui demandera.
Mais quand elle est chantée par Jacques Brel. Ah.
Avec sa chevelure blonde, on pourrait penser qu'elle est flamande. Mais elle est française et ne s'appelle pas Marieke, mais Caroline, Caroline Pilastre.
Aïe, Marieke, Marieke, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand, zonder liefde, warme liefde, white wind, de stormwind, zonder liefde, warme liefde, wind, de zee, de grijze zee, zonder liefde, warme liefde.
Een kurt het zand over mijn land, mijn flakkeland, mijn Vlaanderland. Mon plat pays, mon pays de Flandre. C'est ce que ça veut dire en hollandais, mon cher Philippe.
C'était pas du vol à puc.
Ah, mais c'est un polyglotte.
C'était pas du vol à puc, non. Enfin, vu la gauche à laquelle il appartient, il n'aime pas trop les capitalistes, boursicoteurs et spéculateurs. Et cette chanson lui ira parfaitement.
Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis.
J'attends.
Et puis, y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des
inoubliable.
Fenêtres,
oui. Inoubliable Jacques Brel, oui d'ailleurs. On compte, à 18h30, ce sera notre grand débat. Faut-il rétablir
la transition.
Ah mais c'était fait exprès.
J'ai bien compris, monsieur le professionnel.
Vous pouvez voter dès maintenant au 0826-300-300 Jean-Marie Bordrier.
Faut-il rétablir l'impôt sur la fortune qui a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio et vous votez oui massivement d'ailleurs à 70% d'entre vous.
Eh bien, vous pouvez voter, 0826-300-300, Twitter, on vous prendra avec plaisir à l'antenne à partir de 18h30, mais tout de suite, le tour de table de l'actualité.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste.
Je suis Darmanin.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Le tour de table
de l'actualité.
Et on commence avec vous, Philippe Bilger. Vous voulez nous parler de Christian Jacob, des Républicains et des gros sous? Mais pour se mettre dans l'ambiance, oui. On écoute ceci.
Je suis radin, mais ça m'empêche pas d'être un mec sympathique. J'ai des oursins dans les poches et quand faut payer, ça pique. Les Romains qui tendent la main au feu pour moi, c'est des sadiques. Je voudrais payer mes factures avec une vague.
Alors, a priori, Christian Jacob parle gros sous pour la primaire.
Alors, Christian Jacob doute que le parti ait assez d'argent pour organiser une primaire qui coûte à peu près, m'a-t-on dit, grosso modo, 5 millions d'euros.
Il faut faire un primaire ton.
Alors, il a dit « Merci, vous garderez vos mots d'esprit pour tout à l'heure ». Et en réalité, je crois que derrière cela, il y a la volonté de ne pas faire de primaire parce que les Républicains officiels ne veulent absolument pas favoriser la réussite de Bruno Retailleau qui, dans le cadre d'une primaire, probablement l'emporterait. Alors on cherche à imaginer un système de départage en avril 2021, alors que, semble-t-il, le parti aurait les moyens d'organiser une primaire, puisqu'il a vendu, je crois, son siège, il a de l'argent, mais je crois que derrière tout cela, il y a une volonté politique d'interdire à Bruno Retailleau de l'emporter avec, paraît-il, une vision de la droite vendéenne conservatrice, catholique, tout ce qu'il y a de pire pour une certaine frange des Républicains, notamment Aurélien Pradier. Pardon.
Caroline voilà. Pilastre.
Alors, je suis très gênée avec la question des primaires, parce que, comme vous le savez, j'étais sur les primaires des LR, et donc j'en connais les tenants et aboutissants, surtout les conséquences malheureuses qui s'est produite avec la chute de Fillon, mais c'est vrai que la primaire n'est pas liée, à l'échec de Fillon.
Ça a été post-primaire.
Voilà. Exactement. Donc, je ne sais plus quoi en penser. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Ce que je viens de dire,
Ouais, non, mais vraiment, je ne sais... Bah, pardonnez-moi, Monsieur Bilger, mais ouais,
mais on ne peut être que d'accord. d'accord avec
vous. Non, mais je ne sais pas s'il faut la rétablir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour les LR vu l'état du parti actuellement. Monsieur Retailleau est valable au même titre que les autres candidats qui se présenteront contre lui. Est-ce une question de gros sous? Honnêtement, je n'ai aucune idée actuellement de s'il faut refaire une primaire ou non, parce qu'on est nombreux à avoir encore le traumatisme de l'ancienne primaire et du résultat de la présidentielle.
La primaire, ça vous plaît, Pablo Pio-Vivien?
La primaire, j'avoue que je sais...
Enfin, à droite, à gauche, n'importe où. Hein.
Oui, moi je dirais qu'il y a un problème global, en fait, avec les primaires en France, c'est que, en vérité, on fait des primaires, il y en a un qui gagne ou une qui gagne, et qu'après, les autres sont incapables de se ranger derrière. Donc, et ils passent leur temps à lui mettre des bâtons dans les roues, ça marche pour la gauche, c'est ce qui s'est passé avec Benoît Hamon, ça marche...
Avec Ségolène Royal en 2007.
Avec Ségolène Royal, exactement, en 2007, ça s'est passé avec Fillon, etc. Non, ce que je note sur la primaire de la droite, enfin, moi ce qui me fait rire, c'est que les principaux challengers potentiels à Bruno Retailleau pour être candidat à la présidentielle, c'est Valérie Pécresse et c'est Xavier Bertrand, et en vérité ils ne font pas partie des
Républicains. Plus partie de
LR. Ils ne font plus partie de LR. Donc c'est là que j'arrive pas très bien à comprendre comment ce parti en fait va réussir à se démerder avec ces deux candidats potentiels et pour le coup
qui sont repartis.
Donc il va falloir qu'ils réussissent à les ramener dans leur giron parce
ou d'autres,
que
Pablo, peut-être que d'autres Rachida vont
Dati
sortir.
Pourrait se présenter à la primaire LR. Il y en a peut-être d'autres. Le paradoxe, pardon, hein, c'est que dans la mesure où les Républicains pensent n'avoir aucune chance en 2022, il y a une multitude de candidatures en quelque sorte gratuites.
Mais ça, on connaît bien à gauche.
Après tout, pourquoi dissimuler une ambition dès lors qu'on n'a aucune chance et qu'on...
Moi, je pense pas qu'il pense comme ça vraiment réellement. Je pense que évidemment, si la primaire a lieu, hein, c'est pour essayer de gagner. Donc, il faut rallier, il faut fédérer, et c'est bien le problème actuellement, que ce soit chez les LR ou auprès de la gauche. Pour trouver un chef qui puisse réunir les ambitions de tout le monde, sachant qu'il y a quand même une partie des gens de droite qui sont chez Macron. Il ne faut pas l'oublier. Donc moi, je vraiment me pose beaucoup de questions.
Y compris,
j'ai
je vous coupe certains qui ont fait la primaire il y a 3 ans et demi,
mais
comme
oui.
Bruno Le Maire.
Mais oui, Bruno Le Maire, il y a quand même des élus au
Roselyne
pouvoir
Bachelot,
actuellement.
Etc., mais à la
oui,
primaire,
et puis Darmanin, Castex, oui. Ils proviennent d'où? Il y a une partie du gouvernement de chez Monsieur Macron, qui sont des LR. Donc si les LR n'arrivent pas à se rassembler derrière un chef potentiel, je pense que ça va être très compliqué
pas
pour 2022.
S'identifier. Moi, je crois que c'est pour ça que j'approuve Retailleau. Je crois que on lui oppose une droite molle. Je crois que si la droite parvient à comprendre que c'est en manifestant son identité qu'elle a le plus de chances de réussir, je crois que...
Sauf qu'actuellement, avec la question régalienne, hein, Monsieur Macron est en train de savonner la planche à la droite et
pas
au RN avec les questions sécuritaires.
Mais pas du tout, Caroline, parce que
ça,
on voit parfaitement que la volte qu'il fait à l'heure actuelle, Emmanuel Macron est purement cynique, que le régalien constitue toujours sa lacune fondamentale.
À 18h30, enfin, notre grand débat, faut-il rétablir l'ISF? Vous pouvez voter dès maintenant et nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants en compagnie de nos vraies voix chanteuses aujourd'hui, puisqu'on a rendu hommage à Jacques Brel, Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pio-Vivien. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pio-Vivien, suite du tour de table de l'actualité. Maintenant, Caroline Pilastre, vous allez nous parler facteur, mais on va se faire ça avec un petit bout de chanson, non?
Allez.
C'est un gentil facteur sur son vélo moteur. C'est un gentil facteur sur son vélo moteur.
Vous reconnaissez les chanteurs?
C'est pas Henri Dess?
Si, Henri Dess. On avait Brel qui était belge, on a Henri Dess qui est suisse. Vous voulez nous parler des facteurs?
Et oui, je voulais revenir sur la baisse d'activité, plus exactement, pardon, de la Poste.
Ah oui.
Suite au Covid. Vous avez 2 milliards de courriers qui ont été envoyés en moins d'envois de courrier en français qui ne sont plus envoyés actuellement depuis cette période à cause du manque d'activité lié à la Covid, ce qui fait que les facteurs vont être obligés de se diversifier, même si on sait que la Poste est le deuxième employeur après l'État. Ça représente quand même 251 000 personnes, salariés, ce qui fait que évidemment l'organigramme de la Poste est obligé de changer avec cette nouvelle période. Alors, ça fait longtemps, enfin depuis quelques années, la Poste a décidé de prendre une orientation numérique plus importante, puisqu'il faut bien suivre. Et vous avez Amazon, qui est quand même le concurrent direct de la Poste au niveau des colis. Donc voilà, donc le facteur apporte moins de courriers aux différents
Pablo
locataires.
Pio, Vivien. Le facteur n'est pas passé, c'était un jeu de cours de récréation, non, ça, à l'époque.
Il faut faire très attention, en fait, à cette disparition progressive et annoncée de la Poste, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, ça structure une partie de notre territoire national. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez dans les petits villages, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une mairie, il y avait une poste, il y a une boulangerie. Mais la Poste, c'est quelque chose de très important. Et on est en train de voir ces postes, en fait, disparaître petit à petit. Donc, en fait, des territoires où, où il y a de moins en moins d'emplois, tout se numérise. Donc, les gens peuvent faire ça de chez eux et souvent dans des bassins, genre le bassin parisien. Et il y a une deuxième chose, c'est que maintenant, effectivement, il y a de moins en moins de facteurs. Mais les facteurs, nous, enfin, moi, je suis parisien et le facteur, je le vois même pas. Mais en fait, dans beaucoup de territoires, le facteur, c'était aussi celui qui créait du lien social, qui connaissait, qui allait voir. C'est-à-dire que quand vous aviez des personnes âgées, en fait, il passe, il met l'enveloppe dans la boîte aux lettres et il dit un mot avec la personne. Et en fait, ça permet à cette personne, à certaines personnes âgées qui sont parfois isolées, ça lui permet en fait d'avoir des interactions sociales. Et là, on est en train de supprimer ça. Et je pense que vous parliez des 251 000 salariés de la Poste. Peut-être qu'une de leurs reconversions, ça pourrait être d'aller vers ces métiers.
Mais c'est le cas. Je me permets de vous interrompre, Pablo. Il y a un service à la personne auprès des facteurs, puisque ça fait depuis plusieurs années qu'ils ont été obligés de se reconvertir. Cette période est inédite, donc forcément moins d'envois de courrier et plus de numérique, puisqu'il y a moins d'activités au sein des entreprises. Malgré tout, le service reste quand même présent, mais il est évidemment affaibli. Par contre, moi, là où je me pose des problèmes, ça pose un problème et je vous rejoins, c'est dans les zones rurales. Il y a vraiment des zones blanches, il y a une fracture numérique et il faut penser justement à ce lien humain.
Le nombre de villages où il n'y a plus de bureau de poste, c'est colossal.
Et tout le monde ne gère pas bien le numérique, donc il faut des formations aussi.
C'est aussi notre faute. Il n'y a plus un citoyen qui comprend qu'une forme de savoir-vivre, c'est d'envoyer une lettre. Et on préfère faire répondre par mail, ça va très vite, mais on a perdu l'habitude d'écrire. Et c'est aussi pour ça que la Poste n'a plus... C'était bien avant la Covid, ce déclin, je crois.
Ah bah, c'est sûr que le nombre de courriers... Maintenant, le nombre de sociétés qui envoient, par exemple, leurs factures avec les LCR, les traites par courrier, c'est devenu minoritaire. Aujourd'hui, tout le monde les envoie par mail au service comptabilité. Tour de table de Pablo Pio, Vivien.
Écologiquement, c'est pas mal. Hein.
Oui, ça, c'est vrai.
Alors, moi, je voudrais vous parler d'un truc, en fait, qui m'énerve. C'est l'insulte récurrente, et ça a été utilisé par Gérald Darmanin il n'y a pas longtemps, à l'égard d'une partie de la gauche, et notamment de la France Insoumise, mais aussi d'une partie d'Europe Écologie Les Verts. C'est l'insulte d'islamo-gauchiste. C'est-à-dire que, je vous cite ce qu'a dit Gérald Darmanin, il a adressé c'est ça à Alexis Corbière, exactement, à l'Assemblée nationale mardi dernier. Il a dit « Dans votre circonscription, vous le savez fort bien, la situation, monsieur le député, est extrêmement grave et je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Voilà la réalité, monsieur Corbière. » En fait, ce type de choses, c'est-à-dire ce type de nom d'oiseau, en fait, qui est balancé à la gueule de Corbière, c'est permanent à la fois sur les plateaux, on les entend, les élus de droite ou du printemps républicain, c'est une partie un peu bizarre de la gauche, qui passent leur temps à envoyer ça sur les... C'est insupportable. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils sous-entendent ? Ils sous-entendent que la France Insoumise ou une partie d'Europe Écologie Les Verts auraient des proximités idéologiques avec les djihadistes. C'est ça qui est sous-entendu. On leur dit « Ah, mais c'était la fameuse une de Charlie où on disait Jean-Luc Mélenchon et Edoui Plenel, est-ce que vous êtes plutôt Charlie ou est-ce que vous êtes plutôt Kouachi ?» Et en vrai, et cette question qui était c'était de l'humour de la part de Charlie Hebdo, en fait, il y a certains élus de la République, des députés qui prennent ça au mot et qui pensent que effectivement Jean-Luc Mélenchon pourrait avoir des accointances avec des islamistes. Mais c'est du grand n'importe quoi. La seule chose qu'il fait, si je terminerai là-dessus, la seule chose que fait la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, c'est de dire attention, il y a une vague islamophobe qui se déverse sur une partie de nos concitoyens, en l'espèce les musulmans, et nous, on les défend. Voilà. Et on se met en rempart et on dit attention.
Philippe Bilger et Caroline Pilastre,
rapidement. Vous pensez vraiment que c'est uniquement ça? J'avais tendance à penser que islamo-gauchisme, ça renvoyait à une synthèse sans doute très douloureuse pour la France insoumise, qui manifestait bien les deux branches de sa contradiction. D'un côté, la gauche, le gauchisme, et de l'autre, une sorte de... pour les raisons que vous dites, sans doute une défense exagérée de l'islamisme.
Mais c'est pas la défense qui est exagérée, c'est plutôt les attaques vis-à-vis
des
musulmans.
Ah mais on a les attaques à l'inverse, Pablo. Quand on est en désaccord avec la gauche, on est traité de facho obligatoirement. Pablo, moi, j'ai trouvé que Darmanin avait extrêmement bien remis à sa place Corbière. Parce que LFI joue quand même un jeu très dangereux, électoralement parlant. Ils sont quand même, il faut le rappeler, racialistes, indigénistes. Ils sont les premiers à attaquer. Bon. Dès que ça ne leur convient pas et à monter, mais dans les tours et être excessif. On ne peut pas avoir un discours cohérent, modéré sur un plateau télé, radio ou même dans la vie avec quelqu'un qui est de gauche. Gauche. Je le dis parce que dès qu'on est en désaccord, on est traité obligatoirement de facho. Alors, moi je dis c'est un juste retour des choses et ce qu'a dit monsieur Darmanin, j'étais entièrement d'accord avec lui.
Non mais donc, vous répondez à l'insulte par l'insulte.
Non, c'était pas une invective. Mais, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on tend l'autre joue.
Je sais pas si vous êtes républicaine.
Mais c'est bien sûr que je suis.
Répondez
Mais Pablo, c'est pas une insulte.
Islamo-gauchisme.
Ah non,
mais en fait, le problème, c'est que la définition. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire islamo, si c'est islamiste qu'on doit voir derrière cette contraction, mais c'est certainement ça pour moi. C'est une insulte. Et le deuxièmement, gauchisme. Gauchisme, c'est une insulte. Et précisément pour la France insoumise. Gauchisme, c'est Lénine qui a utilisé ça, qui parlait de maladie infantile du communisme, en parlant des anti, des gens qui étaient contre le Parlement, qui étaient contre le parlementarisme. Je trouve ça un peu fort de café. C'est Corbière qui l'a fait remarquer ce matin. Il trouve ça un peu fort de café de dire ça précisément à un parlementaire.
Vous ne diriez pas que c'est une définition politique?
Mais non, c'est pas une définition politique. Il y a plein d'autres choses. La question sociale, à mon avis, est beaucoup plus structurante quand on parle de la France insoumise ou de l'écologie, quand on parle d'Europe Écologie Les Verts, pour définir ce que sont
ces questions. Sauf qu'il s'agit de régalien, ça dérange quand même LFI, qui ne veut pas entendre parler de ces sujets et de l'exaspération de la population face aux incivilités et à l'insécurité quotidienne. Donc, ils préfèrent voir les autres sujets qui les arrangent bien. Et je vous dis, dès qu'on est en désaccord avec une personne de gauche sur un plateau, d'extrême gauche, tout de suite, nous, on est renvoyés directement au terme facho. Alors, moi, je dis, c'est un juste retour des choses.
Vous êtes bien sur Sud Radio, pile 18h28, le grand débat, 18h30. Faut-il rétablir l'impôt sur la fortune? Eh bien, pour le moment, vous êtes c'est un score assez large. Vous êtes 69% à dire oui. Vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300, les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pillo Vivien.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage. Taxe.
Les conclusions du deuxième rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité publié hier a montré que la suppression de l'impôt sur la fortune, l'ISF, et l'instauration de la flat tax au début du quinquennat ont eu pour effet de faire fortement augmenter les revenus des 0,1% des Français les plus aisés. D'où notre grand débat, faut-il rétablir l'ISF? Et vous êtes désormais 68% à dire oui sur Twitter. Avec nous pour en débattre, Lynn Wangnock, économiste et co-auteur avec Vincent Drezet du livre « Il faut faire payer les riches » publié au Seuil. Lynn Wangnock, bonsoir.
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 Avoir supprimé l'ISF, c'est plus un acte économique ou un acte politique?
C'est un acte politique. Lorsque vous supprimez l'ISF et que vous sortez les revenus du capital du barème de l'impôt sur le revenu, il faut vraiment prendre les Français pour des idiots pour ne pas voir que ça va inciter ceux qui peuvent acheter des titres en bourse, eh bien, à en acheter parce que c'est plus taxé et parce que ça rapporte, et ce qui rapporte n'est plus taxé au barème de l'impôt sur le revenu. Donc, les résultats qui sont affichés par le rapport étaient prévisibles, pour que les Français sachent, les dividendes ont augmenté de 62% en un an, de 2017 à 2018. Ils sont passés de 14 à 23 milliards, donc on pouvait largement s'y attendre. Alors, le vrai sujet, c'est de savoir ce que les riches font de ces dividendes. Est-ce que ça ruisselle, comme on dit, au bénéfice de l'économie. Est-ce qu'ils consomment? Parce qu'on peut imaginer qu'en achetant des Ferrari, bah, ceux qui fabriquent des Ferrari embauchent, etc., etc. Si je prends un exemple caricatural qui n'est pas très écologiste.
Très patriotisme est-ce économique qu'il... puisqu'elles sont faites en Italie.
Oui, non, mais c'est très juste, très juste. Mais c'était pour l'image. Le vrai sujet, c'est ça. C'est est-ce que ils utilisent leur argent dans l'économie réelle ou est-ce que ils le replacent en bourse? Or, la vérité, c'est que ils n'investissent pas dans l'économie réelle. Ils consomment un petit peu parce qu'ils ont quand même un petit train de vie, mais l'essentiel de ce surcroît de revenus, il est placé en bourse. Alors, est-ce que les placements en bourse vont alimenter l'investissement? C'est le vrai sujet. Mais malheureusement pour le gouvernement, aujourd'hui, l'essentiel de la capitalisation boursière sur le marché actions, c'est des rachats d'actions déjà émises. Donc, ça ne finance pas, si vous voulez, le vrai investissement. Ce qui financerait l'investissement, c'est les nouvelles émissions d'actions. Or, c'est marginal sur le marché actions. Le marché actions, c'est essentiellement des opérations de fusion-acquisition, des rachats d'actions comme le Monopoly, Veolia, Suez, etc.
Absolument.
Et ça ne crée pas forcément d'emplois. Au contraire, ça restructure et généralement, ça se traduit par des destructions d'emplois et il n'y a pas d'investissement dans l'économie réelle. Donc, on comprend bien que le rapport soit très mitigé et qu'il en conclut par le fait que ça ne ruisselle pas dans l'économie réelle en termes d'augmentation de l'investissement.
Philippe Bilger.
Je ne prétends pas, et je sais à quel point dans les débats que j'ai eus avec vous, vous maîtrisez bien mieux tout cela que moi, même avec une vision tout à fait claire. Mais quand j'ai essayé de comprendre le rapport dans le compte-rendu qui était fait, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas totalement négatif tout de même. Et que, par exemple, il avait permis le retour de beaucoup de contribuables en France. Est-ce que tout ça est inexact? Vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Il est vrai que cela a engendré le retour... de 240 riches sur 133 000 imposables à l'ISF. Il y a eu 163 départs. Donc, oui, un solde positif de 77 riches en plus. Bon, c'est pas énorme.
Non.
C'était sans doute des exilés fiscaux, tout comme il y avait des immigrés pendant la Révolution qui sont revenus après, lorsque...
Il y a eu la restauration.
Ont perdu. Voilà, mais le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est est-ce que leur retour engendre un effet bénéfique pour l'économie? Est-ce qu'ils investissent dans l'économie réelle? Est-ce qu'ils innovent, comme le prétend le président de la République? Le vrai sujet, c'est ça. Or, les chiffres montrent que, pour le moment, ça ne se voit pas.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h36. Faut-il rétablir l'ISF? Vous êtes 68% à dire oui. On a beaucoup de commentaires. On a Jackie qui nous dit oui pour les fortunes qui se font sur le dos du peuple, non pour les petits patrimoines acquis après une vie d'économie et de labeur et qui ne rapportent rien. Ça réagit également au 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pio Vivien. Faut-il rétablir l'ISF? Vous êtes 68% à dire oui. Ça appelle beaucoup au 0826-300-300. On va faire le tour de nos deux vraies voix qui ne sont pas exprimées avec Lim Mangdog pour des questions et réponses brèves. Allez au 0826-300-300, Pablo Pio Vivien.
Ouais, moi j'ai deux points. Le premier, il est politique et en fait, c'est juste le constat d'un échec, en fait, d'un pari d'Emmanuel Macron. Voilà, il avait fait le pari que la suppression de l'ISF allait permettre de relancer notre économie. Là, voilà, ce rapport conclut plus ou moins que c'est pas le cas, il n'y a pas de ruissellement, ça marche pas. Enfin, voilà, une mesure foirée, c'est encore une épine dans le pied d'Emmanuel Macron, à mon avis, pour 2022. Le deuxième, et c'est sous la forme d'une question pour Lingwan Nok, c'est... Là, on est en période... On a vécu la crise du Covid, il y a eu le confinement, il y a un ralentissement de l'économie, et on a vu, il y a aussi une augmentation des inégalités, c'est-à-dire que les riches pendant la crise, pendant la pandémie s'en sont encore mis plus plein les poches, et est-ce que l'ISF, en fait, le fait qu'on n'ait plus cet outil-là pour, en fait, faire plus de répartition, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce qu'on n'aurait pas été justement avec des outils comme l'ISF, ça n'aurait pas pu nous aider, en fait, à sortir de la crise un peu plus facilement?
Lim Mangdok, une réponse rapide.
Bah, ça a été jackpot sur le plan fiscal pour tous les soutiens d'Emmanuel Macron. On pense souvent à l'ISF et à la flat tax sur les revenus du capital, mais là, ils viennent de supprimer une grosse partie des impôts sur la production. Alors, ça se voit pas parce que ça fait partie du soi-disant paquet du plan de relance. Sauf que le jour où on se rendra compte que tout ça a un coût en termes de rendement de l'impôt, parce que le rendement de l'impôt, il ne va cesser de baisser. C'est comme aux États-Unis où Trump a baissé les impôts. Lorsque ça ira mal et qu'on se rendra compte que tout ça a un coût en termes de baisse du rendement de l'impôt, et ben, la réponse que vont faire les technos de Bercy, ça va être qu'il faut réduire les dépenses. Donc voilà, tout ça est complètement cohérent du point de vue de ceux qui pensent que l'État ne sert pas à grand chose, qu'il faut réduire les dépenses. Et puisque vous parlez de la crise du Covid, moi je suis choqué que dans ce soi-disant plan de relance, il n'y ait pas eu de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Il y a les fermetures de lits ont programmé, ont continué à se faire, et il n'y a pas eu un seul poste créé. Hein, alors on dit les postes c'est à long terme, sauf que les concours de recrutement à l'internat, les concours de praticiens hospitaliers, c'est au printemps. On aurait pu anticiper, on n'en a pas recruté un seul. Donc il y a un vrai sujet là-dessus.
Caroline Pilastre.
Non, mais c'est clair que cette crise a paupérisé une partie de la population, parce qu'il y a eu un sondage de fait dernièrement qui disait qu'il y avait 1 million de personnes pauvres à cause de la Covid. Donc c'est assez terrible. Évidemment, vous mettez dedans les indépendants, les artisans, l'événementiel dont on ne parle jamais, les précaires déjà. Voilà, on était encore plus précarisés. Moi, je voulais vous poser une question, parce qu'on sait très bien que le président Macron est initialement le président de la Startup Nation. Il a beaucoup parlé, ou mais c'est pas un problème, moi ça me gêne pas, j'ai pas envie de voir tous les riches de notre pays partir s'exiler ailleurs, parce qu'on en a quand même besoin pour payer beaucoup de choses. Non mais ça c'est aussi très dogmatique. Mais en termes d'innovation justement, et d'entrepreneuriat pur et dur, puisque c'est quand même un des combats, enfin ça faisait partie des propositions dans la campagne du président Macron, hein, de mettre en avant l'entrepreneuriat et de booster donc les innovations. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça, justement, concernant l'ISF? Est-ce qu'il y a un lien direct? Est-ce que, justement, les très riches ont quand même réussi à investir dans le secteur?
Limongnoc, rapidement.
Non, justement, le rapport montre qu'il n'y a pas eu d'effet sur l'investissement, sur la formation brute de capital fixe.
Même dans les innovations? Parce que, franchement, moi, j'ai des retours et je vous assure que j'entends pas ça.
Il n'y a aucun rapport entre acheter des actions et faire en sorte que les actions en bourse ensuite se convertissent en innovation. Quand vous achetez des actions en bourse, les entreprises qui en bénéficient n'investissent pas forcément. Et là, en l'occurrence, il s'agit de rachat d'actions déjà émises. Donc, ce n'est pas pour financer de nouveaux investissements. C'est fait pour financer des opérations purement financières.
On va au 0826 300 300, direction Montpellier, l'Hérault. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir.
Alors, pour vous, est-ce que c'est une bonne chose de supprimer l'ISF?
Il me semble que c'était une promesse électorale, déjà.
Oui.
D'un point de vue, alors pour répondre à votre question, et d'un point de vue politique, ce serait sûrement une bonne chose électorale, c'est une bonne chose de le remettre en place, je pense. Après, d'un point de vue économique, c'est une ineptie. Ça rapporte très peu à l'État.
Mais il n'a pas été totalement supprimé. Il y a l'IFI qui a remplacé, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. On a détaxé les actions pour taxer la pierre.
Exactement. Ça, c'est un pur scandale. C'est-à-dire qu'on taxe en fait ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui ont un tout petit patrimoine, qui notamment grâce à la spéculation immobilière, ils sont passés sur le au-dessus du seuil à 1,3 million, il me semble. Et donc ils sont éligibles maintenant ils sont éligibles à l'impôt sur la fortune immobilière. Alors que ces gens n'ont rien à côté, ils n'ont pas de revenus à côté ou très peu. C'est beaucoup ont simplement des retraites. Donc c'est inutile de faire ça.
Alors on va faire réagir Lim Mongnok. Merci beaucoup Antoine de Montpellier. On va retourner au 0826 300 300. Lim Mongnok, est-ce que finalement le vrai problème c'est qu'on a détaxé les actions pour taxer la pierre?
On a taxé les classes moyennes, puisque si vous taxez l'immobilier, vous taxez avant tout les classes moyennes supérieures. Donc là on n'a absolument pas tapé sur le haut du panier. Alors après, je veux répondre à madame sur les startups. Hein, les startups ne sont pas cotées en bourse. Hein, donc ça n'a aucun effet sur les startups, cette affaire.
Retour au 0826 300 300, direction Périgueux. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
Est-ce que vous voulez le retour de l'ISF ou pas?
Ah non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous avez, pour les petits, je dis bien les petits, assujettis ISF ou IFI maintenant, quand vous avez un rendement du capital qui n'a rien à voir avec les 20 ou 25% d'augmentation comment dire, de la richesse des gros industriels ou des grands capitalistes. Quand vous êtes bien, quand vous avez bien vécu, vous avez bien travaillé, vous avez réalisé votre capital, vous apercevez que le rendement qu'on vous offre aujourd'hui, c'est 2,5 ou 3%, et comment vous taxez ça à 1,5%. C'est-à-dire plus de 50% de ce que vous gagnez, sans parler de la CSG. D'accord ? Donc moi, je trouve que c'est extrêmement spoliatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la CSG. C'est le fait que trop d'impôts tue l'impôt. À savoir que quand on était assujetti à l'ISS, il existait des mécanismes pour éviter de payer cet ISS. Mais c'est la course à l'échalote, c'est la course en avant, en permanence. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point,
merci beaucoup Bernard de Périgueux. Limongnoc, est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème? Parce que c'est ce que disait Jackie dans un commentaire, taxer celui qui a beaucoup spéculé en bourse, etc., oui, mais celui qui a monté une boîte, qui est parti de rien et qui a gagné beaucoup d'argent, est-ce que c'est logique de le taxer alors qu'il l'a fait à la sueur de son front et en travaillant plutôt 75 heures par semaine que 35?
Mais non, mais c'est pas à cela que ça profite, la suppression de l'ISF, ça profite aux demi-familles les plus riches, hein, toutes les mesures qui ont été prises. Ça touche pas l'entrepreneur moyen qui gagne entre 3 000 et 500 et 5 000 euros par mois.
Bah si, parce que s'il a acheté des appartements et qu'il a investi dans la pierre, oui, il est frappé.
Mais bien sûr, mais moi je vous parle de la suppression de l'ISF. Faut quand même voir que les gros bénéficiaires sont des gens qui gagnent entre 100 et 10 000 SMIC et des gens qui ont un patrimoine supérieur à 15 millions. C'est cela la clientèle qui a bénéficié des mesures Macron. Donc le vrai sujet, il est là, quoi.
Mais est-ce qu'on quand même on n'a pas un léger
problème? Par ailleurs, pour répondre à monsieur, l'ISF qui a été supprimé, il était plafonné à 75% du revenu imposable.
Absolument.
Il y avait un espèce de bouclier fiscal que Hollande avait mis en place d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pas vrai de dire que les très riches dont je parle étaient spoliés. D'autant que si vous prenez la feuille d'imposition des 10 premières fortunes de France, je me souviens que le Canard Enchaîné s'était amusé à faire ça. Le taux d'imposition sur le revenu réel de Madame Bettencourt lorsqu'elle vivait encore, il était inférieur à 20%, quoi. Hein. Donc c'était la France est loin d'être spoliatrice et les riches sont loin d'être incités à partir. La montée des inégalités qui ont explosé et l'explosion des revenus des plus aisés montre que la France est un pays fertile pour eux.
Dernière question pour une réponse très courte, Limongnoc. On ne peut pas imaginer ce gouvernement rétablir l'ISF alors qu'il l'a supprimé.
Ben non, puisque là, il vient encore de baisser les impôts de production, ce qui va poser un problème, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas insisté sur ce point, pour les collectivités locales, lorsqu'il faudra financer les investissements publics.
Donc effectivement, ce n'est pas avant 2022, au cas où, que l'ISF reviendrait dans le code fiscal, dans le code des impôts en France. Merci beaucoup, Limongnoc. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Il faut faire payer les riches » publié au Seuil, livre co-écrit avec Vincent Drezet. Verdict, mon cher Jean-Marie Bordry, sur les réseaux sociaux.
Eh bien, nous vous posons la question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce qu'il faut rétablir l'ISF? Et vous répondez oui à plus des deux tiers d'entre vous, puisque vous êtes 70% à répondre ainsi sur le Twitter de Sud Radio.
Et maintenant, c'est le moment du clin d'œil des VV qui est dédié ce soir, mon cher Jean-Marie, encore aux Alpes-Maritimes qui pansent leur plaie après le passage de la tempête Alex et à la diaspora niçoise qui vient au secours de son département d'origine.
Ah oui, il y a beaucoup de Niçois un peu partout toute la France. Les dons sont venus de toute la France depuis le début de la semaine pour aider à reconstruire les vallées de la Roya et de la Visubie qui ont été ravagées par le déluge. Et ben, il y a les Niçois de Paris aussi qui ne sont pas en reste. Exemple avec l'épicerie fine Les Niçois qui a décidé de reverser tous les bénéfices de son site internet jusqu'à Noël. Bonjour à vous, Luc Sananès.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur des Niçois. Alors, c'est une épicerie fine, notamment sur Internet, et vous avez aussi deux restaurants à Paris. Du coup, ça veut dire que tout ce que vous vendez sur votre site Internet, ça partira directement à la mairie de Nice qui dispatchera ensuite sur les opérations de solidarité, quoi. C'est ça ?
Exactement. C'est exactement ça. En fait, il y a donc le fonds d'urgence qui est géré par la mairie de Nice, la ville de Nice, qui sera le mieux à même de redispatcher les aides qui vont arriver chez eux pour pour aider justement tous les sinistrés. Mmh. Et donc nous, au travers de notre petite boîte, on essaie de filer aussi un petit coup de main.
Vous avez baptisé cette opération Apéro Solidaire. Pourquoi Apéro Solidaire justement?
Pourquoi Apéro? Parce que nous, notre créneau justement, c'est l'apéro. Nos restaurants à Paris, c'est là où on prend l'apéro, et les produits d'épicerie qu'on fait sur Internet sont majoritairement de l'apéro, mais avec aussi un ou deux sweatshirts. Pas forcément apéro, hein, du coup, le sweatshirt.
Oui,
mais
évidemment.
C'est sur le site aussi.
Quelques goodies, et c'est normal. Vous êtes tous niçois, ou presque, dans la chaîne, j'imagine?
Alors, tous, non, parce que on n'a pas le droit de recruter les gens en fonction de leur origine.
Évidemment.
Mais oui, bien sûr.
Si vous faites passer l'entretien en Nissarte, déjà, ça va limiter. Hein.
C'est très discriminant, effectivement.
Exactement. Et je peux pas travailler tout seul.
Il y a beaucoup de Niçois ou pas dans le reste du pays, par exemple? Où est-ce qu'ils sont, les Niçois en général? À Paris, vous avez à peu près toute la France, ce qui est logique.
À Paris, il y a plus de Niçois qu'à Nice. Nous, quand on a ouvert, on n'avait que des Niçois tout le temps. Je ne sais pas où ils étaient cachés.
Ouais. C'est vrai.
Enfin, la première année, c'était vraiment de la folie.
Et que vous ont dit vos proches, vos familles, parce que vous venez de Nice vous-même, ils ont confirmé ce qu'ont dit beaucoup de personnes sur Sud Radio depuis le début de la semaine, à savoir que oui, les inondations arrivaient très régulièrement, sauf que cette fois-ci, c'était autre chose.
C'était une catastrophe.
C'était une véritable catastrophe.
Bah, les routes qu'on prend pour aller au ski depuis qu'on est gamin, tout ça, il y a plus de 2 km de route qui se sont effondrées. Et en direct, en fait, moi, j'avais mes oncles, ma mère, tout ça, qui m'envoyaient des vidéos à chaque fois. C'était surréaliste, quoi.
Luc Sananès, je vais faire un ennemi, c'est mon régime. Est-ce que vous livrez de la pisse saladière, de la soca et des farcis?
Alors, on livre pas de la pisse saladière, de la soca et des farcis, à part aux Parisiens. Ah oui, ça c'est possible avec Uber, mais à partir de demain, et c'est le timing qui veut ça, mais à partir de demain, vous pourrez retrouver des petits beignets de courgettes, des beignets d'aubergines et des pisses saladières au rayon frais chez Monoprix, qu'on fait. Voilà, et ça se lance demain.
Parce que faut être franc, c'est 3 spécialités niçoises qui sont absolument excellentes. Vous connaissez Philippe Bilger?
J'ai dû en manger.
Oui.
Pablo, moi, je connais que la pisse saladière.
Ah bon, vous connaissez pas les autres, Caroline?
Moi aussi, pareil, la pisse saladière. Mais ça donne faim.
À peu près. Oui, moi aussi. Je suis comme Philippe Bilger. J'ai beaucoup goûté, effectivement. Bravo à vous, en tout cas, mon cher Luc Sananès, parce qu'en plus, la situation pour les restaurateurs est quand même pas facile en ce moment. Inondation ou pas.
C'est pour ça que c'est l'épicerie qui essaie de filer un coup de main.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est quand même un beau geste.
Et l'adresse de votre site web?
Exactement, oui.
Lesnitois.com.
Tout simplement.
Ça, au moins, c'est simple. Un seul mot minuscule.
Voilà. Et évitez de mettre la CDI sur Internet, mais ça marche quand même a priori. Merci beaucoup, Luc Sananès, cofondateur des Niçois. Cette épicerie fine que vous retrouvez sur lesniçois.com.
Et comme on dit à Nice, notamment dans les tribunes du côté de l'ancien stade du Rail ou maintenant au l'Allianz Riviera, Issa Nissa. Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h54. On se retrouve avec Les Vraies Voix dans quelques instants.
Le réseau immobilier Orbi, des femmes et des hommes pour votre bien, présente
Sud Radio Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Osez Investir et vous nous emmenez cette semaine à Grenoble, grande métropole en Rhône-Alpes, riche de plus de 160 000 habitants.
Oui Thomas, nous recevons effectivement Alexandra Digoa, directrice de l'agence Orpi LP Immo à Grenoble.
Bonjour Alexandra Digoa.
Comment se porte le marché immobilier à Grenoble, Alexandra?
Étonnamment calme en cette rentrée, c'est d'habitude un petit peu plus dynamique. On est en contre-coup du confinement ce mois de septembre.
Et qui pousse en ce moment toujours la porte de votre agence?
Beaucoup d'investisseurs, comme toujours à Grenoble. On a également beaucoup de primo-accédants en ce moment.
Quelle est la tendance sur les prix?
Les prix sont en train de monter à Grenoble, c'est une première depuis quelques années. Depuis la fin du confinement, cette tendance a l'air de s'installer.
Alors Alexandra Digoa, avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville?
Tout à fait, c'est le moment d'acheter.
Merci Alexandra Digoa d'être passée du côté d'Osez Investir. Je rappelle que vous représentez l'agence Orpi LP Immo de Grenoble. Quant à vous Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio Osez Investir.
Merci.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Merci à tous les trois, Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Pablo Pio-Vivien, et bon week-end. Maintenant, c'est votre tour de prendre le relais, tiens. Comme autour de la piste du meeting du Nikaya à Nice, le meeting d'athlétisme. Je vous passe le témoin.
Est-ce vraiment un look d'athlétique?
Ah oui, oui, oui.
Allez, place aux vraies voix qui font bouger la France. On va parler, comme tous les vendredis soirs, les voix du système D. On donne un coup de main, justement, quelques conseils avec nos experts fiduciaires à tous les artisans, les petits entrepreneurs. On va parler du chômage partiel et de l'activité partielle de longue durée. Tout ça est assez confus, assez compliqué. C'est vital pour que les entreprises gardent leur personnel. Comment ils peuvent s'y retrouver? On va en parler dans quelques instants. Et puis, les actus qui font bouger la France à 19h15. Est-ce que le gouvernement est vraiment décidément impuissant face à l'insécurité qui frappe notamment les policiers? On en a parlé cette semaine. On en reparlera avec nos deux débatteurs.
Je maintiens, vous avez vraiment un physique d'athlète, mon cher Jean-Marie Vendry.
On vous retrouve
dans quelques instants.